Mais ce matin, plus que jamais, il n'y aura pas de chef. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le pire reste à venir, la matinale des antennes de la radio Principe Actif et de la radio HDR. Je vous le disais, ce matin il n'y aura pas de chef parce qu'on va commencer à parler gouvernance collective. On verra bien si on arrive à prendre les bonnes décisions, en tout cas celles qui conviendront à tout le monde ce matin dans l'organisation de l'émission. Justement pour m'accompagner ce matin, nous retrouverons l'ami So. Bonjour So.
Salut JC, salut à tous.
Nous retrouvons l'ami Antoine en chair et en os. Bonjour Antoine.
Bonjour JC, bonjour à tous.
Et puis nous a rejoint ce matin Leandro. Hola Leandro.
Hola, salut.
Voilà, on aura l'occasion d'y revenir. Nous aurons également deux invités de marque, à savoir Arnaud et Gérard du collectif de l'association Octave. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Et on discutera justement avec vous ce matin des questions de gouvernance. C'est votre spécialité, bien entendu. Dedans, on y mettra du bon son, de la bonne musique, une ou deux bonnes infos, allez savoir. On n'est pas à l'abri de passer une bonne matinale sur les antennes d'HDR et Principe Actif.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir. La matinale du matin qui va bien.
HDR.
Les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Radio Principe Actif.
Alors écoute, 99.1
HDR.
102.4 FM.
Radio Principe Actif.
Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans.
Reste à venir.
Et je vous le disais que ce matin, il n'y aurait pas de chef parce que tout simplement, nous recevons l'association Octave, le collectif Octave, Gérard et Arnaud qui défendent et participent à de nouveaux modes de gouvernance. Je dis nouveau parce qu'en fait, on n'est pas habitué forcément dans notre culture et dans le fonctionnement des institutions ou des structures actuellement à ces questions-là. Mais ça arrive sur le tapis. C'est ce qu'on appelle la gouvernance collective. Bonjour, dis-le Gérard, carrément dans le micro, j'ai dit des bêtises déjà, hein, c'est ça?
Non, pas forcément, c'est collectif, mais bon, on préfère employer partager.
Partager, d'accord. On y reviendra parce que chaque mot a son importance quand même, et justement, quand on développe des concepts, c'est précis. Arnaud, Gérard, qui est Octave, ce collectif, et qui êtes-vous, vous?
Voilà. J'y vais. Le collectif Octave était né en 2014, justement, à l'occasion des municipales. Alors Octave, pourquoi? Parce que Organisation citoyenne pour la transformation de la ville d'Évreux. Là, on s'appelle 2026 parce qu'on remet le couvert. Le problème était que justement on trouvait que les hommes en place, ou femmes, pardon, les hommes et femmes, excusez-moi mesdames, qui étaient en place avaient tendance à décider une fois qu'ils ont été élus et pas forcément de continuer à consulter la population et connaître quels étaient vraiment les problèmes. Pour ma part, moi j'étais animateur sur la ferme pour enfants que j'ai eu la chance de mettre en place. Et donc j'ai rencontré énormément de gens, de familles, d'enfants, etc., qui étaient en difficulté avec des problématiques auxquelles ils ne trouvaient pas réponse. Donc je m'étais inscrit naturellement dans ce groupe Octave à cette époque-là.
Arnaud, toi aussi t'es quelqu'un qu'on connaît bien quand même sur Évreux. En deux mots, cette notion de partage, de gouvernance, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Comment est-ce qu'au bout d'un moment tu y as été sensible? Et qui es-tu, Arnaud? On va le faire d'ailleurs peut-être dans ce sens-là. Qui es-tu, Arnaud?
Ok, disons d'un point de vue professionnel.
En tant que citoyen, non, qui es-tu? C'est plus large d'ailleurs que professionnel.
Ok.
Ah ouais, elle est dure celle-là dès le matin. Hein. On va chercher le café entre deux, t'inquiète pas.
Bon, globalement, je peux dire que je m'intéresse à la manière dont on se parle. Et je pense que cette question de gouvernance partagée, c'est une manière d'évoluer en fait sur la manière dont on est ensemble, la manière dont on se parle, la manière dont on prend des décisions, et ça impacte tout ce que je peux faire globalement dans ma vie, quoi.
Très bien, avec une fibre artistique bien entendu, Arnaud.
Oui, j'ai mis ça un peu de côté pour me consacrer plus sur ces questions-là directement en fait.
D'accord. Oui. Très bien. On est ensemble une heure, c'était le petit tour de présentation pour nos auditeurs découvrir qui vous êtes. On parlera bien entendu de gouvernance partagée, comment ça se met en place, quelles sont aussi les difficultés et les prérequis en fait pour pouvoir décider collectivement tout en se sentant respecté bien entendu, parce que ça c'est au cœur du propos. Je vous propose que nous partions en musique, se mettre un petit peu de groove, nous on prend un café pendant et c'est parti jusqu'à 9h. Jet Lag de Vincent Garcia pour se mettre un peu d'énergie dès le démarrage.
C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller.
Le bien reste à venir.
Le bien reste à venir.
De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
8h à 9h. Sur HDR et Principatif.
Et nous, nous sommes toujours en direct, en live, avec l'association, le collectif Octave, avec Arnaud et Gérard, pour parler j'allais dire le mot qu'on allait aborder juste dans deux secondes, de gouvernance participative, de gouvernance partagée d'ailleurs, plus clairement. Justement, moi je voulais revenir un petit peu sur le point de départ. Comment est-ce qu'au bout d'un moment, on arrive à ces questions de gouvernance partagée, dans quel état des lieux, dans quel point de départ finalement, d'où on part en fait ?
En fait, on part de la base, c'est la démocratie. La démocratie, déjà, elle doit être partagée, mais elle est partagée uniquement par les gens qui ont été élus. Donc ils sont représentatifs, si je ne me trompe pas dans les termes. C'est très important les termes. Et dans le coup, les décisions ne sont prises que par des représentants. Et là maintenant, on ajoute un petit gadget, une démocratie participative. Donc on demande aux gens de participer à leurs décisions. C'est quand même assez dingue comme système. Et puis on se rend compte que ça ne correspond plus du tout à notre société.
C'est aussi une question d'organisation des institutions ou d'organisation même culturelle, j'ai envie de dire, de l'usage de la gouvernance. Et là, je parle gouvernance nationale, internationale, européenne, municipale, associative également, dans toutes les formes d'organisation, finalement, la gouvernance, historiquement et culturellement, elle est quand même représentative.
Oui.
Je me permets, c'est un modèle qu'on a, nous, culturel, en fait, même, au-delà d'être dans la réalité.
Oui, Arnaud. C'est très ancien, en fait. C'était un mode de démocratie qui a été installé il y a très longtemps. Et on pense que ce mode de démocratie qui passe par l'élection des représentants a fait son temps. Il faut trouver autre chose, en fait.
Et alors, est-ce qu'il existe d'autres choses, j'allais dire, presque clé en main, ou est-ce que c'est à fabriquer forcément?
Moi, je crois que c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que, alors, on peut s'appuyer sur tout un tas d'expériences qui ont été menées dans des villes, dans des villages. On a chez nous aussi, au niveau national, l'exemple de la Convention citoyenne, par exemple, pour le climat, qui a été expérimentée. Dans d'autres pays, il y a plein de choses qui ont été expérimentées, donc on peut s'appuyer sur ces exemples-là. Mais ce qui est intéressant pour moi, en fait, c'est que on peut se retrouver dans quelque chose où on ne sait pas, et il faut le fabriquer, et c'est là que ça peut impliquer beaucoup de monde, parce que c'est ça qui est intéressant à vivre, en fait, c'est d'apprendre. Voilà, pour moi ce qui est intéressant, c'est de se remettre tous à apprendre et à essayer des choses.
Alors du coup, c'est presque, ça peut être effrayant, ça peut créer de la peur presque, en fait, de se dire on ne sait pas où on va, mais on y va.
Oui, il y a de l'inconnu, en fait, mais c'est ça, apprendre.
Je vois bien que vous, l'inconnu, vous réjouit, mais c'est effectivement un autre mode de raisonnement, de se dire on va fonctionner autrement. Les freins, c'est qu'en fait c'est innovant, et que finalement les modèles qui fonctionnent sont pas si nombreux que ça, ou alors peut-être que je me trompe, il existe plein de modèles et c'est moi qui les connais pas.
Moi, ce que j'avais envie de rajouter, c'est que déjà nous sommes des animaux, et nous sommes quand même, comme la plupart des animaux, c'est le plus fort qui va l'emporter. Ouais. On a un autre syndrome, c'est que l'aspect à la présentation. On va porter plus de crédit à une personne qui a un costard cravate que le mec qui va se pointer en bleu. Donc déjà, ça, c'est intrinsèque au fonctionnement. Et nous, ce qu'on essaye de dire, c'est bien gentil, mais il y a plein d'intelligence partout. Et ce n'est pas celui qui a un costard cravate qui a les connaissances.
En tout cas, c'est pas le costume qui donne des connaissances.
Non, et c'est pas ça qui donne la compétence.
Tu l'évoquais à l'instant, en fait, la nature un peu des humains avec la loi du plus fort. Mmh. C'est vraiment quand on commence à se dire on va tous faire ensemble, on va faire pour le collectif et pas pour en tirer son propre intérêt. C'est quasi contre nature. Ça demande du temps, cette histoire-là, j'imagine. Enfin, ça s'apprend.
Ben, c'est une philosophie, en fait. Il faut accepter l'autre, il faut accepter éventuellement sa difficulté à s'exprimer. Il faut accepter que ben, on n'a pas raison, tout simplement, et que ben, faut ouvrir la parole à tout le monde. Ça prend du temps, mais on peut gagner du temps après, puisque si on prend du temps à discuter, on fera les choses correctement à long terme. Alors que si, par exemple, une personne est élue, elle va faire quelque chose de son mandat pendant 6 ans. Si c'est un autre qui est élu derrière, il va faire autre chose, ce qui fait qu'on peut détruire ce qui a déjà été fait. Donc c'est un investissement qui est fait au départ, qui est détruit par un autre investissement qui va être redétruit. C'est complètement stupide.
Quand on parle, donc un des termes qui revient dans votre collectif, c'est cette notion de gouvernance partagée. Concrètement, ça peut ressembler à quoi, même si on a bien compris que ça se construisait en se faisant, hein, ce fonctionnement, mais sur un point de départ, ça ressemble à quoi? Comment est-ce que finalement on arrive au sein d'une association à décider avec 100 personnes, 200 personnes? Comment on arrive à décider avec dans une entreprise à 300 personnes? Comment on arrive sur une ville à décider à 50 000 personnes? Comment on arrive à décider sur un départ? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand on change les échelles, on voit bien que là autour de la table, ce matin, nous sommes 6, on devrait s'en sortir de pouvoir décider de quelque chose. Non mais collectivement. Mais dès qu'on élargit, comment est-ce qu'on peut faire?
Oui, il y a déjà, en fait, il y a plein de modèles, c'est parce que c'est pas connu. Hein. Par exemple, il y a des entreprises, tu prends le chiffre de 300, qui arrivent à s'organiser à 300. On n'a même pas besoin de changer, en fait, le modèle pyramidal ou hiérarchique qui est le nôtre en ce moment. Ce qu'on a besoin de décaler, en fait, c'est que on a l'habitude ici que c'est le chef qui décide. Le chef peut prendre une autre position, en fait, dans des nouvelles structures où c'est pas lui qui décide, mais que c'est lui qui soutient la prise de décision collective. Dans ce schéma-là, les oppositions n'ont plus lieu d'être, c'est-à-dire que les syndicats, la politique telle qu'elle est organisée avec l'opposition d'un côté, celui qui est en place de l'autre, tout ça n'a plus lieu d'être si l'organisation est là pour soutenir la prise de décision collective. Là où tout d'un coup le désaccord en fait aujourd'hui qui est dérangeant devient vraiment une source de construction.
L'objet dans ce type de gouvernance, c'est de trouver un consensus qui convient à tout le monde ou pas forcément, justement?
Oui, moi,
parce que c'est tout l'enjeu, en fait. Est-ce qu'on va trouver une solution qui convient à tout le monde, ce qui n'est pas aisé forcément, ou est-ce qu'au bout d'un moment, il y a quand même une notion de « bah ouais, mais t'étais tout seul, gars, tu vas suivre hein. ». Ou les deux.
Ça, c'est pareil, c'est expérimenté. Je sais, par exemple, dans certains pays du Nord, où les élus ont l'obligation de trouver une proposition finale, de prendre une décision qui a l'unanimité. Quand c'est notre objectif, alors c'est possible. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quand tu disais tout à l'heure que c'est contre nature, de la coopération, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça.
Je ne suis pas sûr de l'avoir dit comme ça m'étonne maintenant qu'on me dise ça de moi. Normalement, je ne dis pas ça. Hein.
Que ce n'était pas quelque chose de naturel.
Oui, c'était peut-être pas quelque chose de naturel.
Évidemment, c'est naturel de se défendre, en fait. Mais on n'est pas toujours dans un environnement qui suppose d'avoir à se défendre. Et que la coopération, si elle est posée comme... On peut vite comprendre, en fait, que la coopération, c'est notre intérêt. Et que notre intérêt, ce n'est pas la guerre, en fait.
Alors quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, j'ai Antoine Laquet qui nous chaque fois il a un œil sur ce qui va pas forcément, c'est ça hein.
Oui, je pense la même chose que toi, puis je vais en parler un petit peu.
Oui, je sais bien.
Et je suis d'accord sur le fait que oui, l'intérêt commun n'est pas la guerre finalement quoi.
Non, clairement pas. Ça quand même pose des bases quand on parle. Je vais pousser un peu le truc. C'est en fait, on sort d'un modèle capitaliste qu'on connaît. On sort d'un modèle performatif même qu'on connaît quand on aborde ces questions-là de cette manière. On change de modèle de société carrément.
Ah bah c'est une autre philosophie quoi. C'est pas un type en haut qui dit bah moi je vais faire ça, voilà quoi. C'est les gens qui se réunissent, qui discutent de leurs problèmes. On réunit des cercles de travail et après ces cercles se retrouvent pour voir si leurs problématiques n'impactent pas le cercle d'à côté, etc. Alors c'est un processus un peu long bien sûr, mais je répète, c'est gagner du temps pour l'avenir.
C'est vraiment sur un concept de collectif. Comment est-ce que je m'occupe du collectif? Comment j'ai un regard à chaque fois? Tu l'évoquais à l'instant, Gérard, c'est dans le cercle de compétences qu'on vient de travailler. Une fois qu'on a travaillé un truc, on se satisfait pas uniquement qu'il soit opérationnel pour ce cercle de compétences. On vérifie que dans les autres cercles de fonctionnement, ça ne vient pas entraver quoi que ce soit.
Il peut y avoir des réponses à une question qui n'est pas résolue par un autre cercle.
Oui, de surcroît.
On a grandi le cerveau.
C'est ça. Et puis, tu l'évoquais, plus on est nombreux, normalement, plus on a de matière grise.
Oui.
Normalement. Si tout va bien. C'est, sur ces fonctionnements, moi je voulais revenir sur une idée quand même, c'est que pour être prêt à rentrer sur ces notions de travail collectif, si moi en tant que citoyen, je rentre dans ce fonctionnement-là avec Octave ou d'autres structures qui fonctionnent de ce type-là, j'ai besoin quand même d'avoir un bagage pour... Enfin, j'ai la sensation quand même que cette éducation politique est au centre de la question, non ? Sommes-nous tous prêts d'ailleurs ? Sommes-nous tous équipés pour pouvoir travailler de ce type, de cette manière-là ? Ou est-ce qu'il faut, j'allais dire une formation, faut pas abuser sur mon formation, mais est-ce qu'il faut une éducation politique quand même pour avancer là-dessus ?
Tu as un cerveau de base ?
Ouais, ça va.
Tu as ton expérience personnelle ? Tu as des compétences autres qu'on ne connaît pas, ça se trouve, tu es un super bricoleur. Toutes ces compétences-là s'additionnent. Donc, tu vas aller certainement vers des sujets qui te préoccupent.
Ouais.
Donc déjà, tu es un peu spécialiste, puisque ça te préoccupe, tu te poses la question. Donc tu cherches des solutions. Tu vas plutôt aller t'engager dans ce domaine-là, on va dire le bricolage dans cet exemple. Donc on est tous différents et dans des domaines différents, et on va tous vouloir faire avancer les choses.
Mais pour la méthode du collectif, par exemple, je peux avoir toutes ces compétences que tu évoquais, mais faut quand même apprendre à collaborer, enfin à coexister, à collaborer, avoir un œil sur le voisin. C'est là-dedans que je dis cette éducation politique, apprendre à écouter aussi, apprendre à changer d'avis à la lumière de l'argumentaire de quelqu'un d'autre. Tout ça, ça s'apprend quand même.
Bon, c'est sûr qu'on n'est pas éduqué, l'école promeut pas en fait la coopération par exemple, ce qui pourrait devenir un vrai souci de l'école au niveau national. Donc, mais si on l'a pas, il faut bien qu'on commence en fait. Et je pense que l'environnement dans lequel on est, là par exemple, l'environnement dans lequel on est, nous laisse de l'espace pour parler. Si j'arrive dans un environnement hostile, je vais peut-être pas avoir la même possibilité en fait d'expression. Et donc, je pense que si on réussit à mettre en place des environnements, donc le cadre de base est extrêmement environnement, parce que est extrêmement important, parce que c'est ça en fait qui va permettre à des gens qui ne se croient pas légitimes, qui ne se sentent pas capables, tout d'un coup de voir des choses se révéler. Tout d'un coup, ce qu'ils pensaient être pas intéressant peut vraiment prendre des dimensions extrêmement constructives en fait, au sein d'un collectif. Donc la mise en place des environnements, c'est déjà en fait laisser la possibilité aux gens d'apprendre à être eux-mêmes et à nourrir le collectif.
Alors moi, je vais apporter peut-être une piste aussi qui permet d'amener un cadre sécurisant pour aborder certaines thématiques. Le jeu sérieux, le serious game, peut offrir aussi des outils pour justement instaurer, tu vois, et apprendre aux personnes. C'est même pas une notion d'apprendre, c'est juste leur permettre de se saisir de leurs paroles, de créer des modèles partagés en fait, et de permettre à chacun de s'exprimer. Les plus volubiles, de les cadrer, et puis les plus timides, d'avoir une forme d'expression. Donc on peut aussi s'outiller pour justement aller vers des gouvernances partagées, pardon. Voilà, ça existe en entreprise, mais ça existe aussi en famille, ça peut exister aussi pour des collectifs ou des associations, et donc ça peut être un premier support justement pour apprendre et de façon ludique, et puis un petit peu dédramatiser aussi quand on aborde des sujets très sérieux et qui peuvent être anxiogènes. Avoir un peu de ludique, ça peut aider certains aussi.
Voilà. J'imagine, Arnaud, que ça te parle peut-être, cette notion d'apprentissage ludique des fonctionnements. Pour faire le lien, en fait, tu es directeur de l'école démocratique aussi.
Oui, voilà.
Donc j'imagine que les outils pédagogiques, les outils ludiques pour fonctionner, c'est un truc qui doit te parler, non ?
Oui, donc nous depuis quelques années, donc on a créé cette école démocratique dans cette idée-là, c'est-à-dire que il doit y avoir une éducation pratique, concrète, faire l'expérience de la prise de décision collective. C'est quelque chose qui doit s'ancrer dans les individus pour devenir quelque chose de naturel. Voilà, donc c'est quelque chose qui se pratique. On peut partir d'idées, ensuite il faut le vivre corporellement dans sa chair pour comprendre que c'est extrêmement satisfaisant pour un individu de vivre ça au quotidien. Ça rend heureux, en fait, tout simplement.
Bah forcément, avoir l'action sur le quotidien de manière collective ou du coup par extension individuellement aussi, c'est forcément épanouissant de se sentir faire partie de la construction du collectif. Je vous propose une pause musicale et nous revenons ensuite avec, je sais pas, on va décider avec quoi on reviendra juste après la pause musicale, mais en tout cas nous gardons nos invités d'Octave pour continuer à échanger autour de cette gouvernance partagée. Un morceau, moi, qui me fait plaisir et que je vais partager avec vous, Sarah Bess, Vices.
I drink liquor like it's water, cause I'm my father's daughter. Something in my brain says it'll numb the pain, and as long as I still wake up on time, the next morning and it's fine, right? We grew up in the suburbs where there wasn't much to do, and I learned pretty quickly that you'll make more friends if you just show up with some beers and a bottle of whatever. They say it numbs your fears and makes your jokes a bit more clever. I shouldn't have nicotine for breakfast, but I'm just so fucking restless, and I should probably call my mom more instead of passing out on puff floors. God, I must be good for something. No conclusion, I'm just jumping into anything that might make me feel okay. Anything that might help to numb the pain. But as long as I still wake up on time, the next morning then it's fine, right? But I still wake up on time. But I still wake up on time. They say people can change, but let's face it, we're all just products of how we were raised. And generations before us say to be more tough, as if they weren't the ones that raised us and fucked us up. But don't get me wrong, my parents did fine. They always did what they could, and my problems are mine. But every other day there's another world crisis. That's why we numb the pain with all of these vices. I shouldn't have nicotine for breakfast, but I'm just so fucking restless, and I should probably call my mom more instead of passing out on puff floors. God, I must be good for something. No conclusion, I'm just jumping into anything that might make me feel okay. Anything that might help to numb the pain. But as long as I still wake up on time, the next morning then it's fine, right? As long as I still wake up on time, the next morning then it's fine, right? As long as I still wake up on time, the next morning then it's fine, right? As long as I still wake up on time, the next morning then it's fine, right? I still wake up on time. I still wake up on time. I still wake up on time. The next morning then it's fine, right?
Sarah Bess avec le titre Vices.
Le pire.
Le pire.
Reste à venir.
Reste à venir.
Bon allez, debout là-dedans.
De 8h à 9h sur Principe Actif et HDR.
Allez, debout là-dedans, allez.
Et une de nos passions chez Principe Actif, c'est mettre du lien entre les gens. Il y en a un qui nous vient de loin, c'est Leandro, qui nous vient d'Argentine, et il nous a mis du lien avec nous en France. Bonjour Leandro, quel lien est-ce que tu nous as trouvé?
Alors, il existe des liens très intéressants entre la France et l'Argentine, pas seulement au football, mais aussi dans l'art. Un exemple, c'est celui de René Goscinny, le créateur d'Astérix et du Petit Nicolas, qui a vécu son enfance à Buenos Aires. Cela l'inspirait fortement pour créer ses personnages. Dans le secteur de la musique, on connaît le cas de chanteur Florent Pagny, marié avec une artiste argentine est installée en Patagonie depuis 2006, et aussi les rappeurs Vic Flo et Oli, d'origine argentine par leur père, à laquelle ils font souvent référence dans leurs chansons. Il existe aussi des curiosités pas si bien connues, mais qui restent quand même très intéressantes. D'abord, on parlera d'Edith Piaf, qui visite Buenos Aires en 1957, et c'est ici où elle écoute « Que nadie sepa mi sufrir », »,« Que personne ne connaisse ma souffrance ». Cette valse créole, composée par Ángel Cabral en 1936, est chantée initialement par Hugo del Carril, puis par Alberto Castillo, trois figures très connues du tango, servant d'inspiration pour la chanson « La foule », qui conserve la musique de la valse originale en changeant les paroles.
Y pensar que te adoraba tiernamente, y a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin olvidar.
beso de tu boca yo me vi.
Une autre curiosité se trouve du côté de Carlos Gardel, le chanteur de tango le plus connu de la première partie du XXe siècle, dont ses origines suscitent des polémiques jusqu'à aujourd'hui. On sait sans aucun doute que sa mère, Berta Garde, était française et tout semble indiquer que le chanteur l'était aussi. Son nom de naissance serait Charles Romuald Garde, né à Toulouse le 11 décembre 1890, fait qu'il aurait caché pour éviter le service militaire français, obligatoire à l'époque.
Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo.